Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! L'épisode vous est proposé en partenariat avec Ecosia, le moteur de recherche éco-responsable qui reverse 100% des bénéfices à l'Action pour le climat, dont 80% pour financer des projets de reforestation situés dans des zones critiques de biodiversité. Pourquoi vous parlez d'Ecosia ? Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dans ce podcast, on parle d'initiatives qui contribuent à un monde meilleur. Donc si vous cherchez une idée de geste green toute simple à mettre en place et qui a un impact concret, pensez à Ecosia. Toutes les 45 recherches, c'est un arbre qui est planté. Allez simplement sur Ecosia, ecosia.org, et mettez-le en moteur de recherche favori ou installez-le sur votre smartphone. Et en plus, c'est gratuit. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de Communautaire, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Van de Waal, pionnière de la slow cosmétique et fondatrice de l'Amazuna, une entreprise française qui propose des produits solides, naturels et durables pour la salle de bain, avec une mission, celle de réduire vos déchets ménagers pour un quotidien plus respectueux de la planète. Bonjour Laetitia, tu vas bien ?
Bonjour Pauline, ça va et toi ?
Très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de cosmétiques naturels, de produits solides, de fabrication française, bien sûr, de zéro déchet et d'impact carbone, mais aussi de nouveaux modèles d'entreprise et de réduction du temps de travail. Mais avant tout, Laetitia, peux-tu te présenter ?
Bah écoute, enchantée. Moi, j'ai 37 ans. J'habite dans la Drôme depuis 3 ans. Avant, j'étais sur Paris, alors que j'étais née en Vendée. Donc, j'ai un peu fait le tour de la France pour arriver ici, où on est au top avec l'équipe.
Super. Alors, raconte-nous le démarrage de l'Amazuna. Quel était le déclic ?
Alors, c'était il y a bientôt 12 ans, en 2010. J'ai eu l'idée de faire des lingettes démaquillantes qui soient efficaces juste avec de l'eau et qui, en plus, permettent d'éviter le démaquillant. C'est une idée qui est arrivée un peu par hasard suite à un week-end avec des copains. J'avais emmené une serviette en microfibre d'une marque bien connue. Et le lendemain de soirée, je ne m'étais pas démaquillée. Et là, en sortant de la douche, je me rends compte que ma serviette m'enlève tout mon maquillage d'un seul coup. Alors, elle m'a arraché tous les cils en même temps. Donc, il y avait un truc qui n'était pas parfait, mais il y avait une idée.
D'accord. Et là, tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose à faire. J'ai envie de créer ma propre gamme.
Oui, exactement. En fait, j'avais déjà monté pas mal de projets, des sites internet, des associations avec des copains à chaque fois, avec beaucoup, beaucoup de boulot mis sur chaque projet, mais pas vraiment de succès venu par derrière. Enfin, bien souvent, c'est ce dont je me suis rendu compte par la suite. On arrêtait le projet un peu trop tôt. Et donc, j'avais envie d'entreprendre. Ça, c'était sûr et certain. Et quand j'ai eu cette idée de lingette, j'ai trouvé que le produit me ressemblait. Donc, c'est vraiment l'idée à laquelle je me suis accrochée.
D'accord. Et donc, ça, c'était le premier produit de la gamme L'Amazuna ?
C'était le tout premier produit. Au début, je pensais ne faire que ça, mais je me suis vite rendu compte qu'un produit qu'on ne rachète que tous les 7 ans, ça allait être un peu difficile pour faire vivre une entreprise. Et du coup, c'est là que ça a donné l'idée d'aller regarder la poubelle de la salle de bain, voir ce qui est resté, une fois qu'on avait retiré les cotons et les flacons de démaquillant. Et du coup, le truc a été d'inventer des solutions pour faire vraiment disparaître tout ce plastique.
Donc aujourd'hui, dans le catalogue L'Amazuna, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ?
Alors ça va des brosses à dents aux auriculis qui remplacent les cotons-tiges. On était parmi les premiers à faire des coupes menstruelles made in France, même si c'est un petit peu passé de mode maintenant. Et puis après tout ce qui va être au bord de la baignoire ou de la douche, donc les shampoings, dentifrices, déodorants, etc., etc.
Et là vous produisez des produits solides ?
Des produits solides, oui. On les appelle cosmétiques solides, c'est une expression que j'ai beaucoup employée. En réalité ce sont des produits d'hygiène, c'est pas très sexy de dire produits d'hygiène, donc on dit cosmétiques solides, oui.
Et alors, ces produits, vous les fabriquez vous-même ?
On les fait fabriquer, puisque historiquement, donc ces fameuses lingettes, il fallait déjà 6 fabricants différents pour réussir à faire un coffret complet. Donc historiquement, on n'a jamais eu de production en interne.
D'accord. Donc en l'occurrence, tu ne t'approvisionnes pas auprès de fournisseurs, mais par contre, tu fais fabriquer auprès d'ateliers qui fabriquent ce genre de produits.
Voilà, qui font fabriquer suite au cahier des charges qui est développé par notre équipe innovation en interne. Et aujourd'hui, on a une trentaine de fournisseurs un petit peu partout en France.
D'accord, bah c'est la question que j'allais te poser, parce que du coup, chaque produit doit avoir ses spécificités et certainement un savoir-faire qui est différent et qui est produit un peu partout en France.
Ah oui, tout à fait. Mais tu vois, justement, pour les coupes menstruelles, il fallait un injecteur de silicone qui sache faire du silicone médical. Pour les limes à ongles, elles sont en pierre des Pyrénées taillées à la main. Pour les shampoings solides, ils sont faits dans le sud de la France, donc vraiment avec des techniques très particulières à chaque fois.
Et quelle est ton exigence vis-à-vis de tes fournisseurs ? Dans le cahier des charges, il y a une notion de produit, parce qu'il y a tel que tu l'as designé en termes de design, de fonctionnalité, mais est-ce qu'il y a aussi un engagement supplémentaire sur le savoir-faire, sur le packaging, sur le mode de livraison ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ton cahier des charges ?
Alors, dès qu'on arrive à nouer une relation assez forte avec un fournisseur, on va lui demander, par exemple, de supprimer le scotch en plastique des cartons pour n'utiliser que du scotch papier. Comme ça, les cartons qu'on récupère de ce fournisseur, on peut nous-mêmes les réutiliser ou les mettre au recyclage si on n'en fait rien. Après, on est allé un peu plus loin avec certains. On leur a demandé de passer chez un fournisseur d'électricité verte, chose qu'ils auront acceptée. Et on a fait passer l'année dernière une charte partenaire avec 12 points. 12 choses du quotidien de l'entreprise sur lesquelles on leur propose de faire un petit bilan de ce qu'ils font déjà aujourd'hui et de se donner une marge de progression pour les années à venir. Donc ça va de ce fameux scotch papier à l'utilisation d'un véhicule électrique mis à disposition des salariés.
Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire pour vous ? C'est-à-dire que par exemple, vous dites, bah voilà, il faut respecter 2 critères sur 10 ou...
Alors non, parce qu'on a l'habitude de travailler avec des fournisseurs qui sont très loin de nos préoccupations et on aime bien les faire avancer en leur montrant à quel point c'est intéressant, à quel point c'est une bonne idée, plutôt que leur imposer ça et le leur mettre sous contrainte.
En fait, vous les guidez plus qu'autre chose ?
Oui, je pense que l'impact est bien meilleur quand on va dans ce sens-là.
Clairement. Et alors, comment tu as fait grandir l'Amazuna depuis 2010 ? Aujourd'hui, enfin, en 2010 plutôt, tu es partie toute seule dans l'aventure. Aujourd'hui, ça regroupe une cinquantaine de personnes, des millions de chiffres d'affaires. Donc, comment tu as réussi à faire grossir l'entreprise ?
Alors, ça a été très très long au début. Les 5 premières années, je les ai passées toute seule. Et en 2015, on a accueilli la COP21 en France et là, tout a explosé. Le zéro déchet a été compris pour ce qu'il était, vraiment une... Enfin, nos produits ont été compris comme étant une solution au problème du plastique, là où avant, ils étaient vus comme des produits assez rigolos qu'on s'offrait à Noël. Et en même temps, il y a eu une grande avancée sur le végétarisme et le véganisme, et nous, les produits étaient véganes aussi depuis le début. Donc, la marque a été comprise d'un seul coup à ce moment-là. Et donc, depuis 2015, on suit une très belle croissance pour arriver jusqu'aux 50 personnes qu'on est aujourd'hui.
Et pourquoi végane ? C'est un choix, une conviction particulière ?
Bah en fait, ça semble assez évident. Dans des cosmétiques, ça ne demande aucun effort d'utiliser un cosmétique vegan plutôt qu'un cosmétique à la base de laine de lanoline, par exemple. Ça vient de la laine du mouton ou autres ingrédients. Il y a bien plus barbare que ça. Mais du coup, ça semblait très simple à formuler. Finalement, pas plus compliqué que du non-vegan. Et puis vraiment, pour le consommateur final, pour moi, il ne voit pas de différence. Donc c'est un passage, une avancée vers le véganisme ou le végétarisme qui ne demande vraiment aucun effort.
D'accord. Et alors, parle-nous de cosmétiques solides. Qu'est-ce que ça implique concrètement ?
Alors, nous, en termes de formulation, ça implique de se casser la tête puisqu'on est sur de la pure innovation. Alors, aujourd'hui, on en entend parler partout. Hein. Ça fait 2 ans et demi que la concurrence a vraiment explosé. Mais il y a 7 ans, quand on sortait nos déodorants solides, on était vraiment les seuls à proposer ça. Donc, il a vraiment fallu inventer des techniques de fabrication, des formulations. Et les dentifrices solides, pareil, on était vraiment les seuls à en proposer. Donc depuis, ça a bien avancé. Le fait qu'il y ait plein de concurrence fait que les fournisseurs d'ingrédients se sont aussi penchés sur la question. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a un plus grand choix d'ingrédients pour aller plus loin dans la qualité des produits. On a l'exemple sur un démêlant, un après-shampoing qui est démêlant. On a pu reformuler celui qu'on avait sorti là depuis un an. Et on a vraiment le même effet désormais que sur une version liquide. Mais ça, c'est vraiment grâce à un fournisseur d'ingrédients qui s'est posé la question du solide. Donc les contraintes, elles sont vraiment là sur la formulation. Et après, pour le consommateur, sous la douche, alors c'est un petit changement d'habitude, un petit changement de geste, mais qui est de plus en plus facile.
Autant pour les shampoings, gel douche, on peut comprendre que donc le cosmétique solide, c'est, ça a la forme en fait, finalement d'un petit savon qui va un petit peu mousser au contact de l'eau. Autant, par exemple, le dentifrice, c'est peut-être un peu plus surprenant parce que c'est quelque chose qui contient pas un peu moins d'eau. Est-ce qu'on peut tout envisager en termes de cosmétique solide ? Est-ce qu'on pourrait tout transformer comme ça ?
Alors quasiment, nous, il nous manque peu de choses à remplacer dans la salle de bain. Il reste peu de choses dans nos poubelles et du coup, on est en train d'y travailler. Et là, je peux t'annoncer qu'on est en train de travailler sur des soins pour le visage qui soient solides. Et là-dessus, on a déjà des alternatives qui existent depuis quelques années. On a le beurre de cacao, par exemple, mais ce n'est pas parfaitement bien adapté à la peau du visage. Donc, on mise vraiment sur ces nouveaux ingrédients qui vont arriver pour réussir à faire un produit qui soit vraiment de qualité. Si on veut vraiment que les gens suppriment le plastique, il faut qu'on soit au même niveau que les versions conventionnelles et que les versions liquides.
Oui, que du coup l'expérience utilisateur soit la même pour inviter tout un chacun à passer sur la cosmétique solide.
Exactement. Tu vois, sur les shampoings, on vient d'en sortir des spéciales cheveux colorés, cheveux blancs, chevelus sensibles. C'est des choses qu'on n'avait pas auparavant. Or, ça fait que tout un pan de la population pouvait se tenir à l'écart du solide. Et c'était bien dommage.
Du coup, vous avez une gamme vraiment complète aujourd'hui.
Sur les shampoings, ouais. Là, normalement, on a tout ce qu'il faut.
Et alors, parlons un peu plus de cosmétiques solides, parce que c'est un exemple qui est assez marquant en termes de déchets de la salle de bain, pour bien comprendre en fait en quoi ça a un impact positif sur la planète, donc en termes d'emballage, de production d'eau, et de peut-être aussi de livraison, de volume pris dans des camions. Explique-nous un petit peu la différence entre un produit solide et un produit cosmétique.
Alors c'est très simple, c'est à peu près en moyenne, hein, que ce soit un dentifrice ou un shampoing, on a 80% d'eau dans le produit qu'on achète en magasin. Du coup, on a un contenant en plastique qui devient obligatoire et une belle liste d'antioxydants, de conservateurs et donc bien souvent de perturbateurs endocriniens puisque les conservateurs sont très souvent des produits plutôt cracra dans les compositions. Donc dès que vous passez sur le solide, hop, vous enlevez toutes ces problématiques. Plus de plastique à fabriquer, à transporter, à remplir, puis à jeter. Plus d'eau à payer, finalement, au magasin. Et une poubelle qu'on n'a plus besoin de vider à la fin. Donc vraiment, c'est tout gagnant pour le consommateur, pour le fabricant aussi, puisque du coup, ça permet d'avoir des compositions les plus clean possibles. Et voilà. Et maintenant, si la qualité est là, donc vraiment, il n'y a plus d'excuses pour ne pas passer au solide.
Et en fin de vie, comment ça se passe ? Du coup, ces produits, ils font d'eux-mêmes. Donc, au bout d'un moment, il y en a juste plus et on jette l'emballage. Il est recyclé, recyclable.
Alors, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut aller encore plus loin dans le solide, c'est en passant par la vente en vrac, puisque les produits, soit vous les trouvez dans un emballage en carton qui est évidemment recyclable, soit vous les trouvez complètement en vrac. Donc là, c'est à vous d'apporter votre petit sachet en papier ou en tissu, votre petit pochon en tissu. Et comme ça, quand vous avez fini votre produit, il n'y a vraiment plus aucune trace sur la planète. Et ça, c'est l'ultimum de la consommation de cosmétiques solides. Mais c'est vrai que c'est un pas qui est vraiment important puisque la poubelle de la salle de bain est moins triée que celle de la cuisine. Donc, on a tout intérêt à passer au zéro déchet dans la salle de bain en tout premier lieu.
C'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir deux poubelles dans la cuisine. En revanche, dans la salle de bain, c'est un petit peu une poubelle unique et finalement, bah, tout passe dedans, quoi.
Voilà, exactement. Et si on ne fait pas trop l'effort de la retrier par derrière, ben hop, c'est fichu et c'est bien dommage.
En termes de taille, un shampoing solide va être beaucoup plus petit qu'un shampoing liquide. Bon, après, il y a différents contenants aussi. Mais globalement, c'est quand même tout petit. Ça a la forme d'un savon type un savon de Marseille. Enfin, plus ou moins, ce n'est pas forcément la même forme. Du coup, on a le même nombre d'utilisations qu'une grande bouteille de shampoing. Enfin, shampoing ou gel douche. Hein.
Ouais, on est souvent à donner le même chiffre, quelle que soit la marque de shampoing solide. En général, ils équivalent à deux flacons de 250 ml. Et tout ça, c'est simplement dû à ces fameux 80% d'eau que l'on n'a pas besoin de mettre dans la composition.
D'accord, donc c'est beaucoup plus petit et au final, ça dure beaucoup plus longtemps.
Voilà, petit mais costaud.
C'est juste quand même le problème aussi de ces grands flacons, on n'arrive jamais à attraper la fin.
Oui, exactement. Et surtout le tube de dentifrice, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais il y a des tonnes et des tonnes de dentifrice gaspillées parce qu'on n'arrive pas à aller au bout du tube.
Est-ce que produire en France, ça impose certaines contraintes ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez pas faire ou sur lesquelles vous êtes privé de distribuer parce que c'était pas produit en France ?
Alors non, ça impose plutôt des contraintes positives en termes de qualité d'exécution, de respect des bonnes pratiques de fabrication. On est obligé de suivre le règlement européen des cosmétiques aussi, donc des contraintes finalement assez administratives, mais qui sont là pour faire des bons produits à la fin. Donc ça reste plutôt positif. Non, ce qui est compliqué dans le fabriquer en France, c'est ce qui m'avait semblé au début, dans les premières années, c'était de réussir à trouver des fournisseurs. Et ça, donc sur les cosmétiques solides, à la limite, on a beaucoup de laboratoires cosmétiques qui sont assez faciles à trouver désormais, mais sur tous les autres produits de la gamme, c'était une sacrée bataille de réussir à trouver le bon fabricant. Mais c'est aussi parce que je n'y connaissais rien, je n'avais aucun contact dans aucune industrie, donc je suis vraiment partie de zéro, mais c'était moi la partie la plus difficile à défricher au final.
Et est-ce que si demain tu veux produire, faire fabriquer ou distribuer un produit tel qu'une éponge, une lingette ou quelque chose, mais que du coup la seule manière de le mettre dans ton catalogue, c'est de le faire produire en dehors de France, voire même à l'autre bout du monde, est-ce que ça c'est quelque chose que tu envisages ou tu te dis bah non en fait ça correspond pas du tout à nos valeurs, je préfère ne pas le proposer plutôt que d'aller faire fabriquer en dehors de France ?
Alors, c'est une très bonne question. On proposait des éponges de konjac à un moment donné.
Des éponges d'origine japonaise, ça, non ?
Voilà, c'est ça. C'est une plante qui s'appelle le konjac, qui ne pousse qu'en Asie, donc qui est transformée en Asie. Une éponge qui est très douce, qui est exfoliante, qui est compostable, donc plein de belles qualités. Qui bien souvent est vendue dans une pochette en plastique avec l'éponge gonflée d'eau pour se rendre compte qu'elle est douce. Donc nous, on était les premiers à les vendre sèches et à faire connaître le concept. Et un jour, l'idée a ensuite été de développer des nettoyants de visage en version solide. Donc une fois qu'on a réussi à formuler ça en solide, on a stoppé les konjac, on a stoppé la vente des konjac. Alors que c'est un produit qui se vendait très bien en catalogue. Donc c'était vraiment un parti pris de trouver une alternative made in France. Et la question s'est reposée dernièrement puisqu'on travaillait sur une gamme avec pas mal de tissus. Or, les tissus, dès qu'on est sur de la fabrication française, on arrive à découdre bien assez haut. En plus, on voulait du tissu upcyclé, donc qui avait déjà une première vie. Et donc, bizarrement, le tissu de récup coûte plus cher que le tissu neuf, puisqu'il faut aller le chercher, ça prend pas mal de temps. Il faut le laver et il faut le repasser pour pouvoir l'utiliser. Donc, des coûts supplémentaires comparés à un rouleau de tissu acheté comme ça. Et là, avec les marges dont on avait besoin par-dessus ce prix d'achat, ça ne passait plus. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on va les faire au Portugal ? Du coup, ça restera du made in Europe ? Et la réponse a été non. Non, non, du coup, c'est un projet que l'on n'aboutira pas. On va le laisser à d'autres.
Ouais, donc jusqu'au bout des valeurs.
Elles sont dures à tenir, hein, parfois. Mais bon, il faut rester droit dedans.
Tu parlais de coûts tout à l'heure. De la cosmétique, alors en l'occurrence solide, mais ça pourrait être aussi la même question pour l'ensemble des produits que tu proposes pour la salle de bain. Ça a le même coût qu'un produit plus conventionnel ?
Alors, c'est à comparer plutôt au prix du bio, puisqu'on est sur des produits vegan, bio et made in France. Donc, si on compare D'accord. le prix d'un shampoing bio, deux flacons de 250 ml, au prix de nos shampoings solides, là, effectivement, on est sur une équivalence.
D'accord. Et ça coûte plus cher à fabriquer, peut-être ?
Alors oui, alors pour une bonne raison, nous sur les shampoings, on ne veut pas de sulfates. Les sulfates, c'est ce qui va permettre de faire mousser. On a des sulfates qui sont autorisés en bio, mais ils sont trop agressifs pour le cuir chevelu. C'est ce qui fait qu'on a besoin de se re-shampouiner tous les deux jours pour ne pas avoir l'effet cheveux gras, puisque le cuir chevelu va se défendre en produisant du sébum et donc donner ses cheveux gras. Donc nous, on ne veut pas utiliser cet ingrédient, on préfère utiliser du SCI, qui est issu de la coco, mais qui est beaucoup plus cher que des sulfates.
Et le sulfate, est-ce qu'il ne présente pas un intérêt aussi pour ces industriels plus traditionnels d'avoir justement besoin de se relaver les cheveux parce qu'ils regressent et donc du coup d'utiliser davantage de produits ?
Je ne peux pas me permettre de l'affirmer, mais effectivement, on peut se poser la question.
Ouais. En l'occurrence, par contre, tous les cosmétiques solides qui utilisent ces alternatives moussent quand même et on a quand même un produit qui est agréable à utiliser.
Ah oui, complètement. Et puis en plus, on peut espacer ses shampoings, passer à 3, 4, 5 jours sans se laver les cheveux. Ça reste quand même un confort pour le quotidien.
Bon, aucune raison de ne plus passer au solide alors maintenant.
Exactement.
Parlons-nous maintenant d'impact humain, parce que l'Amazuna, ce n'est pas simplement la volonté de réduire les déchets dans la salle de bain, mais c'est aussi un nouveau mode économique, parce que c'est un choix de vie déjà de ne pas forcément être basé à Paris. C'est un nouveau lieu, tu vas nous en parler tout de suite, je crois qu'il ouvre bientôt. Et puis aussi une organisation de travail qui est un petit peu différente de ce qui se fait de manière un peu plus classique en France. Donc vous êtes passé au Friday Fun Days. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ce super projet ?
Alors, on s'est posé pas mal de questions, effectivement, du point de vue RH. On voulait tester des nouveautés et on veut qu'en interne, les gens ne soient surtout pas... que les gens se sentent très libres de proposer des choses que l'on teste. Ça ne veut pas dire qu'on les valide, mais que l'on se laisse le temps de tester. Et donc, quand on était à Paris, on avait testé la semaine de 4 jours. On reste sur 35 heures, mais on les effectue sur 4 jours. Donc, quand on est à Paris et qu'on fait 1h30 de trajet matin et soir, on se dit, bon, on a tout intérêt à faire une journée de travail en moins. Sauf que finalement, on s'est rendu compte que travailler des journées plus longues, plus se taper ces 3 heures de route, ça faisait 4 jours pendant lesquels on ne pouvait plus avoir de vie. Donc, mieux valait finalement rester sur ces 5 jours. Et puis, en déménageant dans la Drôme, du coup, on a remis en cause notre organisation. Et on a fait un appel sur les réseaux sociaux en demandant qui avait des horaires de travail un peu différents et en demandant des bonnes idées. Et on nous a suggéré de finir à midi tous les vendredis. Donc ça, on s'est dit, chouette, on débarque dans une région où on peut faire du ski, de la rando, de l'escalade. On va se garder les vendredis après-midi, ça devrait être une bonne idée. Donc on est parti là-dessus. Et puis après, on s'est rajouté un questionnement supplémentaire. C'est pour les parents de jeunes enfants qui ont besoin d'être à la maison le mercredi pour faire les devoirs. On voulait éviter de proposer des temps partiels puisque du coup la personne perd en rémunération. Donc on a créé un deuxième système d'horaire de travail pour les parents de jeunes enfants qui le souhaitent, c'est pas obligatoire évidemment, qui leur permet d'avoir à la fois le vendredi après-midi et aussi le mercredi après-midi. Et ça donne des horaires de travail qui sont finalement quand même assez bien réalisables puisque ça fait 3 jours, on commence à 8h, on finit à 18h et 2 jours, on commence à 8h, on finit à midi.
D'accord. Et ça, c'est globalement, j'imagine, très très bien perçu dans l'entreprise. Et chacun arrive à adapter son rythme de travail.
Voilà, tout à fait. Alors là, tu vois, on est en train d'enregistrer, on est un mercredi après-midi, donc les bureaux sont plus calmes. Mais il y a quoi? Il y a un tiers de l'équipe peut-être qui est en pause enfant. Donc il reste quand même les 2 tiers de l'équipe pour faire tourner l'entreprise et du coup, ça se goupille très bien.
Et tu parlais tout à l'heure du vendredi après-midi. Vous êtes dans une région qui permet de faire beaucoup d'activités. Chacun est libre de les faire à titre personnel ou avec le reste de l'entreprise?
Oui, alors du coup, comme on avait les vendredis après-midi de libre, qu'on était 11 à débarquer de Paris sans avoir de connaissances sur place, comme on a très vite recruté aussi des nouvelles personnes sur place, on a eu ces vendredis après-midi qui étaient libres pour que chacun propose une activité. Et du coup, on avait, puisque là on est encore en temps Covid, donc on n'a pas pu complètement les remettre en place, mais sur la période normale, on avait quasiment tous les vendredis une proposition d'une personne de l'équipe. Alors ça va de la sortie canoë à cuisiner vegan pour les fêtes de Noël, coudre des sacs à vrac, enfin des choses assez variées finalement. Et en général, il y a quoi? Il y a 10-12 personnes qui participent et ça se fait sur un petit peu un roulement, ça se fait très naturellement.
Une super innovation donc. Pour toi, c'est un moyen de contribuer à un monde meilleur via une meilleure implication de tes salariés?
Alors pour moi, le Friday Fun Day doit rester c'est complètement hors du temps de travail évidemment, et assez détaché de l'entreprise. Le seul lien, c'est le fait qu'on travaille ensemble. Après, l'entreprise participe quand même financièrement quand ce sont des activités payantes, mais on va pas utiliser ces moments pour mettre des photos sur les réseaux sociaux. Tu vois la différence, ouais. On est quand même vraiment sur du temps privé. Donc après, évidemment, quand les gens sont amis au sein de l'entreprise, ça aide à mieux travailler. Mais là, c'est vraiment plus pour le plaisir d'avoir un temps qui permette de s'ouvrir l'esprit sur autre chose.
Et ça, c'est quelque chose que tu as pu mesurer sur la satisfaction, peut-être la rétention aussi de tes salariés?
Oui, alors surtout dans le sens où ils sont devenus quand même très amis. J'entends pas de critiques de l'un vers l'autre. On est quand même 70% de filles, hein, donc c'est des choses qui pourraient arriver vite. En tout cas, on est vraiment dans les clichés. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu ici. Donc j'imagine que ça joue dans ce sens-là.
D'accord. Parlons-nous maintenant de ton projet d'écolieu dans le Vercors.
Alors l'écolieu. L'écolieu, il est en cours de construction. C'est la raison pour laquelle on a quitté Paris. L'idée, c'était de remplacer les tickets restaurants par un jardin permaculture, puisqu'on avait les poubelles de la cuisine qui se remplissaient de boîtes de kebab ou de boîtes de McDo. Or, l'entreprise paye en partie ces tickets resto, donc ça m'embêtait quand même que ça finisse là-bas. Et du coup, comment faire pour régler cette histoire de poubelles de la cuisine qui se remplit? Le mieux, ce serait d'apporter une solution. Et à l'époque, on commençait à se construire des bacs à plantes autour de notre stock. On était à Montreuil avec des tomates qui poussaient dedans et tout. On était plusieurs à être intéressés par la permaculture. Donc, on s'est dit, allons-y, allons plus loin. Et là, j'ai commencé à chercher des terrains autour de Paris, sauf que ce que je trouvais était quand même en région parisienne, et je me suis dit que les gens allaient rester habiter là où ils étaient, se taper justement une heure et demie de RER pour venir au travail, et finalement, ils allaient perdre en qualité de vie à cause de cette idée. Donc du coup, je suis allée chercher un peu plus loin, et c'est comme ça qu'on est arrivé dans la Drôme, à travers un ami qui a une entreprise dans le coin, qui m'a dit que c'était vraiment une chouette région. Et donc là, on a trouvé un terrain à côté de là où on est aujourd'hui en location, sur lequel on va avoir le droit à la fois de faire de la permaculture et sur lequel on est en train de construire notre futur siège social, donc qui sera un écolieu. Et alors derrière le mot écolieu, on peut mettre plein de choses. Nous, on lui donne ce nom-là parce que déjà le bâtiment lui-même va être énergie positive. J'ai travaillé avec pas mal de bureaux d'études sur le sujet, donc il devrait produire plus d'énergie qu'il ne va en consommer. Et puis écolieu aussi dans le sens où on veut être ouvert sur le monde qui nous entoure avec des ateliers, des moments de rencontre, des visites du lieu justement pour parler de ce bâtiment, pour montrer ce qu'on fait en permaculture, etc., etc. On a vraiment à cœur de ne pas être enfermés, nous, tout seuls dans nos bureaux, ça n'aurait pas de sens. Et puis s'ouvrir sur le monde et faire des ateliers, c'est ce qu'on fait depuis plus de 10 ans, puisque le zéro déchet, il a fallu le faire connaître, le véganisme, il a fallu l'expliquer. Donc là, ce sera encore l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans ce sens-là.
Et puis en termes d'équipement aussi, enfin, vous allez déjà assez loin dans la notion de recyclage, de tri, des déchets. Et puis dans la manière dont vous êtes équipé, vous privilégiez aussi la seconde main ?
Oui, alors tout ce qui est ordinateur, là tu vois, j'ai vu sur nos racks dans le stock, ils sont d'occasion aussi. Oui, tout le matériel, tout ce qu'on peut acheter d'occasion, on l'achète d'occasion. Ou sinon, on fait fabriquer nos bureaux, par exemple, tu vois, ils sont en bois, bois massif, fait par un menuisier qui est à 1 km de nos bureaux. Et donc, avec ce bois massif, on sait qu'on pourra le raboter pendant des années pour qu'il reste toujours tout neuf et on n'aura pas besoin de le changer comme ça.
Et puis en plus, vous valorisez les savoir-faire locaux.
Des voisins, voilà. Au début, on n'avait que du mobilier de récup dans les bureaux, mais au final, visuellement parlant, ça devenait un petit peu fatigant, le côté disparate.
Mmh. T'as perdu en unité un petit peu.
Voilà, c'est ça, pour ramener un petit peu de propre.
Surtout avec 50 bureaux.
Voilà, c'est ça. Ça devenait un petit peu bordélique, un petit peu Capharnaüm. Donc là, c'est plus simple au regard.
D'accord. Revenons un petit peu maintenant à l'Amazuna. Quel est le choix des circuits de distribution que vous avez choisi ? Vous n'êtes pas uniquement vendu sur le e-shop. Vous avez aussi des distributeurs partenaires des enseignes physiques.
Oui, alors ça, depuis le premier jour, hein, tout ce qui est boutique bio ont été nos premiers revendeurs et les pharmacies. Et c'est marrant parce que nos premiers revendeurs, pour le coup, étaient plus en Belgique qu'en France, puisque à l'époque, je faisais beaucoup parler de l'Amazuna sur les blogs, et je crois que les revendeurs belges étaient plus proactifs dans le fait de venir me contacter. Donc c'est marrant, on a mieux été distribués en Belgique qu'en France à une époque, mais maintenant, bon, ça s'est rééquilibré avec beaucoup de revendeurs en France, en Suisse, en Belgique, et on est pas mal présents aussi à l'étranger, dans nos pays limitrophes, Allemagne, Espagne, Italie beaucoup aussi. Et Angleterre.
D'accord, donc sur ces pays-là, vous approvisionnez les magasins physiques, ou est-ce qu'on peut aussi passer une commande depuis l'Italie sur le e-shop ?
Oui, on peut, et en plus on est en train de travailler une version internationale. Ça, alors, pour parler purement stratégie marketing, on était parti sur des sites dans chaque pays, avec un Instagram par pays, une page Facebook par pays, et on se rend compte que c'est une galère à tenir. Donc là, on est en train de tout rassembler. Donc au 1er janvier, on aura un site international, un réseau social international. Et ça devrait être plus simple.
Et alors, vous vendez bientôt dans des circuits de distribution, de grandes distributions alimentaires ?
Alors oui, alors ça fait un an, mais pour le coup, avec une autre marque. Ça, c'est typiquement français. On ne peut pas être revendu en supermarché comme Leclerc, Carrefour ou autre, et dans un magasin bio avec la même marque. Sinon, le magasin bio vous déréférence du jour au lendemain. Et ça, vraiment, c'est typiquement français. Du coup, pour quand même aller en GMS, ce qui n'était pas vraiment un choix à la base. On était contacté par toutes les enseignes régulièrement. On disait, non, l'Amazuna, c'est le réseau bio, point barre. Et puis, un matin, j'ai donné une conférence chez Facebook avec la directrice marketing de L'Oréal qui annonce à l'Assemblée qu'ils allaient sortir des shampoings solides sous 2 ans. Donc je suis rentrée au bureau un petit peu furax et j'ai dit à l'équipe, écoutez les gars, finalement on va quand même aller en GMS, donc en supermarché. Par contre pour ça on va devoir créer notre marque, etc. etc. Et c'est comme ça que The Green Emporium est né. Et depuis un an du coup on est implanté dans plus de 300 supermarchés en France pour le coup.
D'accord, donc à la fois vous évitez les conflits de channel, donc du coup de frustrer chaque circuit de distribution pour pouvoir se mettre en concurrence de manière frontale, et en même temps c'est quand même une belle occasion de faire connaître la cosmétique solide et d'inciter un plus grand nombre à la fois à connaître, découvrir et utiliser ces produits-là qui ont un vrai impact sur la poubelle de la salle de bain.
Voilà, exactement. Et puis maintenant on a donc beaucoup de concurrence depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et avant, Cosmétique Solide était synonyme de bio, de vegan, de made in France. Et pour le coup, ça n'est plus le cas maintenant. Donc nous, en allant au supermarché, ça nous donne aussi l'occasion de dire, écoutez, pour nous, un bon Cosmétique Solide, c'est ça, ce sont toutes ces contraintes-là qui vous donnent vraiment un bon produit. Attention, parce que le produit d'à côté, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, donc ça veut dire qu'à la fois, auparavant, la cosmétique solide était associée à un produit hyper spécialisé. Aujourd'hui, il a tendance à rentrer davantage dans la norme.
Oui, tout à fait. Puis avec les mêmes biais que ce qu'on trouve en conventionnel, finalement, versus bio, liquide. Puis, le côté solide, comme tu dis, n'a plus sa spécificité de vraiment produit bon de bout en bout, si je peux dire.
Et la concurrence, aujourd'hui, tu la ressens de manière beaucoup plus forte ?
Oui, c'est vraiment impressionnant. On découvre une nouvelle marque par jour à peu près. Et ça va du petit savonnier qui se met à faire son shampoing solide aux grands groupes, les L'Oréal, Unilever et compagnie, qui sortent leurs produits habituels sous format solide ou qui sortent des nouvelles marques tout en solide, etc., etc. C'est vraiment impressionnant à voir. Et dans les pays limitrophes, dans les pays étrangers, il se passe exactement la même chose avec encore d'autres marques qui arrivent sur le marché. C'est fou parce qu'on est vraiment passé de tout seul à bah, ça y est, c'est devenu la norme. Bon, c'est un peu un rêve qui devient réalité, hein, finalement.
Oui.
Même si ça fait peur de voir tout ce monde qui arrive en même temps. Donc, il faut à tout prix que les consommateurs passent au solide, sinon on n'aura pas gagné le pari, finalement.
Clairement. Et alors, justement, tu fais une belle transition sur la question suivante, c'est quelle est la vision de l'entreprise, de toi, de la Mazuna, ou jusqu'où tu aimerais l'emmener ?
Alors justement, quand j'ai annoncé cette idée de finalement aller vers la GMS, l'équipe était en train de grandir fortement au même moment. On est quand même passé de 11 à 35 personnes en un an, de 35 à 70 à un moment donné, là aussi sur une année. Donc ça allait très très vite. Et j'ai voulu rassurer l'équipe, leur montrer que bah, on savait où on allait, qu'on partait pas dans toutes les directions, et on allait se donner une limite qui était de 150. Et l'idée, c'est que on ne soit que 150 au maximum, le jour où on continuera, où on grandira encore plus, qu'on ne dépasserait pas cette limite de 150. Et ça vient de plusieurs lectures d'études scientifiques qui montrent qu'à 150, on est en groupe assez petit pour bien se connaître et qui n'a pas besoin d'un cadre trop strict pour bien fonctionner.
D'accord, intéressant.
Donc à voir, quand on sera 150, je pourrais te faire un débrief de ce que ça donne vraiment.
Très bien. Quels sont les projets de la Mazuna ?
Alors l'écolieu, évidemment, déménagement prévu au mois de mars, et sur l'écolieu, donc la permaculture devrait démarrer au printemps. L'objectif ultime de la permaculture, c'est d'alimenter un restaurant d'entreprise pour remplacer les tickets resto, pour régler justement cette histoire de poubelle de la cuisine. Ça, on se donne plusieurs années pour monter petit à petit, déjà voir ce qu'on est capable de cultiver l'année prochaine, puis voir ce qu'on est capable de cuisiner, etc., etc. Et on a aussi pour projet à terme d'avoir une micro-crèche sur l'écolieu, dans l'idée de vivre le zéro déchet dès la petite enfance, pas seulement d'en parler, mais vraiment de le pratiquer. Et puis il se trouve qu'on a eu 12 bébés dans l'équipe cette année, donc une micro-crèche serait tout à fait adaptée, donc ce serait bien qu'elle arrive pas trop tard.
C'est vrai qu'avec 70% de femmes dans une entreprise, ce sont aussi des choses auxquelles il faut penser.
Alors je compte les papas aussi, hein.
Oui, tout à fait.
Mais ça fait une flopée de bébés, c'est marrant.
Et alors, en termes de nouveaux produits, je sais que tu dis, enfin qu'il est en tout cas indiqué sur le site internet qu'il est important de ne pas créer des nouveaux besoins, parce que du coup, c'est aussi des nouveaux besoins qui sont peut-être plus inutiles, qui contribuent ensuite aux produits qui sont jetés quand ils ne sont pas nécessaires. Comment en fait on peut concilier la production de nouveaux produits, élargir une gamme de catalogues, tout en veillant à ne produire que ce qui est essentiel ?
Alors, on l'élargit, mais vraiment petit à petit. On se remet beaucoup en cause. Donc, tu vois, typiquement, cette année, on a revu tous nos shampoings. Donc, depuis 2014, on proposait le même format en forme de cannelés, de petits gâteaux. On a tout reformulé avec justement les fameux ingrédients dont je parlais tout à l'heure pour que ça mousse mieux, pour que ce soit plus agréable, que ça sente encore meilleur. Et donc là, plutôt que de sortir des nouveautés, on a plutôt fait un switch des anciens produits vers les nouveaux. Pareil pour les dentifrices, on avait des dentifrices qui ressemblaient à des sucettes, donc c'était super rigolo, c'était vraiment l'alternative qu'on avait trouvée. Et maintenant, grâce à des nouvelles machines, on en propose qui sont à croquer. Donc là, tu vois, cette année, on a eu plus de 20 sorties, mais finalement des sorties qui remplaçaient, qui amélioraient les anciens produits.
Ouais, d'accord, donc pas forcément des nouveaux produits, mais plutôt des nouvelles innovations sur des produits déjà existants.
Voilà, exactement. Avec toujours dans l'idée de rendre le zéro déchet facile et vraiment avec la même qualité, le même rendu que le conventionnel ou le liquide.
Très bien. Quelle est ta vision à toi d'un monde meilleur ?
Oh, il y aura un truc très très simple, que les paroles soient suivies des faits. Je pense que ça suffirait à ce qu'on aille tous très loin ensemble. Après, non, c'est de la verdure partout. Vraiment, ouais. De la verdure partout. Ouais. Les villes avec des balcons qui débordent. Ça, je me rends bien compte que c'est vraiment lié aux personnes en elles-mêmes, alors sûrement à leur éducation. Mais si on n'a pas la fibre de savoir qu'il faut arroser une plante pour qu'elle pousse, ça va être dur de verdir les villes. Donc, il y a vraiment un sujet là-dessus.
Très bien. Quels sont à toi tes gestes green du quotidien ?
Alors justement, en termes de jardinage et de plantes, ça, j'aime bien en mettre partout, partout, partout. Et puis après, aller faire les courses avec mes petites boîtes. Alors, c'est pas des jolis tupperwares, c'est pas des couvercles avec le fond assorti. Ça peut être un vieux pot de glace qui ferme à peine, mais avec mon sac rempli de pots et en passant dans les magasins, de les faire remplir petit à petit. Chose qui est vraiment facilitée une fois qu'on a pris un peu l'habitude du commerçant chez qui on va. Nous, ça fait 3 ans et demi du coup qu'on est dans la Drôme et ça y est, j'ai un peu mes points de chute qui sont devenus des habitudes. Il faut un petit temps pour que ça devienne de plus en plus facile. Mais maintenant, ça l'est, quand ils me voient arriver, il n'y a même plus besoin d'expliquer et ça déroule.
Canon. Quelles sont tes sources d'inspiration ?
Des livres de permaculture, justement. Là, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement ? Un livre sur un créateur de cabane. Il faudrait que je te retrouve le nom.
Oui, on pourra le mettre dans les notes de l'épisode.
Ah oui, mais écoute, je vais retrouver ça après. Ouais, c'est ce qui vraiment me permet de m'évader et je crois que c'est en s'évadant qu'on trouve les meilleures idées. C'est pas en allant faire des benchmarks ou des tours dans les magasins, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Donc vraiment, on pense à autre chose.
Écoute, merci pour toutes tes réponses et ta présentation de la Mazuna. Je crois que maintenant, il est temps de passer au quiz. Est-ce que tu es prête ?
Heureusement, tu m'as prévenu qu'il devait arriver.
Je ne t'ai pas donné les questions à l'avance. Donc l'idée du quiz, c'est donc de te donner une série de questions avec à chaque fois une réponse A ou une réponse B et que tu puisses répondre le plus spontanément possible, soit par la réponse A, soit par la réponse B. Allez, on y va. Pour te déplacer, tu es plutôt Air France ou BlaBlaCar ?
Alors, je devrais dire BlaBlaCar, ça semblerait évident, mais j'adore voyager. J'ai pas de maison à moi, j'ai pas de pied à terre, ce qui me fait triper. Ce pourquoi je travaille, c'est pour pouvoir voyager et j'aime bien aller loin pour découvrir des nouvelles cultures. Même si on en a des toutes proches aussi, j'ai passé pas mal de temps en Europe de l'Est. On a des cultures très différentes et c'est ça aussi qui fait partie de l'ouverture d'esprit. Donc ouais, Air France du coup.
Ok. Pour te rendre au boulot au quotidien, le vélo ou la voiture ?
La voiture, la Zoé du bureau. Alors, mon excuse très officielle, c'est que j'emmène mon chien tous les jours et si je l'emmenais derrière le vélo, ça pourrait être dangereux sur la route. Bon, en réalité, il y a pas mal de dénivelé.
Pour faire des cadeaux, plutôt Amazon ou plutôt Emmaüs ?
Ah non, alors sûrement pas Amazon, ça c'est un combat du quotidien. Donc oui, Emmaüs ou surtout du fait main.
Très bien. Si tu n'as rien dans ton frigo, plutôt McDo ou Too Good To Go ?
Too Good To Go, ils font des sushis Too Good To Go ?
Je pense aussi, ouais.
Ouais, Too Good To Go.
Le lundi, tu es plutôt steak frites ou veggie Monday ?
Oh, alors ça dépend vraiment du week-end qui a précédé. Et mon copain fait les meilleures frites du monde, donc ça compte aussi quand même.
Clairement, peut-être un veggie burger avec des frites maison.
Ouais, ça marche bien ça.
Pour vendre des produits de l'Amazuna, plutôt Black Friday ou Make Friday Green Again ?
Ouais, mais on fait Green Friday justement.
D'accord.
Il y a des belles opérations pour le Green Friday où on reverse 10% des ventes à des organismes et on est reversé à Surfrider cette année.
D'accord, oui, c'est un partenariat que vous avez avec l'association ?
Oui, et du coup, on est pas mal de marques à se rassembler autour de ce Green Friday, justement.
Très bien. En quoi vous contribuez ?
Alors là, on reverse un pourcentage, c'était 10% des ventes du site internet qui sont reversées à l'asso. Surfrider, on en est aussi partenaire avec The Green Emporium, on reverse 10 centimes par produit, donc ça permettait de réabonder encore un peu sur ce partenariat.
D'accord, tu peux nous en parler un petit peu en quelques minutes de Surfrider ?
Oui, mais alors c'est une asso qu'on suit depuis longtemps, on avait fait des partenariats sur divers produits, moi j'aime beaucoup le concept, l'histoire de Surfrider, et l'idée avec The Green Emporium, c'était de montrer que non seulement on allait éviter le plastique, et qu'en plus on allait ramasser celui des autres. Et donc s'associer à Surfrider Foundation pour ce sujet-là, on sait que c'est une entreprise très carrée, très costaud, et ils sont aussi historiques sur le sujet, donc j'aime bien travailler avec des gens qui ont lancé les projets à l'origine. Donc ouais, on est très fiers de pouvoir contribuer à ça. On a nettoyé l'équivalent de 9 terrains de foot, je crois, cette année, de plages préservées.
Oui, c'est parlant.
À gage de refaire mieux l'année prochaine.
Oui, clairement. La dernière question maintenant, avant de dormir, tu es plutôt Netflix ou un bon bouquin ?
En Netflix à fond.
Une série du moment ?
Non, mais c'est inavouable. Non, là, je suis en train de finir Modern Family, c'est la 11e saison, je crois, la dernière. Donc, c'est un peu comme Friends. C'est pas au même niveau que Friends quand même, mais ça fait du bien de se retrouver en famille le soir avant de dormir.
Et de décompresser après une journée bien chargée. Quoi.
C'est vraiment ça, ça déconnecte.
Parfait, bah écoute, merci beaucoup Laetitia pour ta présentation de l'entreprise, pour ton explication de qu'est-ce que c'est qu'un
cosmétique solide, pour aussi toutes tes convictions d'un monde meilleur, pour nous avoir partagé tout ça, alors partager aussi tes innovations, puis aussi ta manière d'innover sur la manière de travailler ensemble, que ce soit sur le lieu de travail ou sur l'organisation du temps de travail. Merci pour nous avoir partagé tout ça, un épisode vraiment très très inspirant.
Merci Pauline, merci beaucoup.
Merci, bonne journée, à bientôt Laetitia.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts, ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter, je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-to20.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.